Vous écoutez, on lit pour vous.
Pourquoi l'iPhone 16 Pro Max coûte en réalité 200 000 $? Un texte de Nicolas Bérubé paru le 6 octobre 2024 dans la presse. Chaque semaine, je parle de finances en utilisant des mots comme « millionnaire » et je donne des exemples de placements qui peuvent paraître à des années-lumière de la réalité de bien des gens qui essaient juste de payer leurs soldes de carte de crédit à temps. Parfois, je me mets à la place d'un lecteur jeune ou moins jeune qui se dit « OK, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Comment ça me parle? » La réponse, c'est que ça ne lui parle pas du tout à ce lecteur. Lire sur l'argent quand on part de zéro ou de près de zéro est un peu comme regarder dans des jumelles par le gros bout. Ce qu'on arrive à distinguer paraît minuscule et impossible à saisir. C'est pour ça que cette semaine, j'aimerais vous parler de l'iPhone 16 Pro Max. Je n'ai rien contre l'iPhone. iPhone 16 Pro Max. Ça semble être un excellent téléphone. Je vais juste te dire combien il coûte, parce que ce n'est pas écrit sur l'étiquette. L'iPhone 16 Pro Max coûte plus de 200 000 $. Comment j'arrive à ce montant? Imaginons qu'un jeune adulte de 20 ans décide cette semaine qu'il a besoin d'un iPhone 16 Pro Max. Est-ce que ça paraît que j'aime ça écrire iPhone 16 Pro Max? Ce jeune adulte, appelons-le Yves, travaille fort. Il n'a pas beaucoup de luxe dans sa vie. Alors, avoir un bon téléphone paraît être la chose à faire. Sur le site de Bell, Yves va voir que l'iPhone 16 Pro Max, acheté pour être remplacé tous les deux ans avec le forfait le moins cher, coûte 127 $ par mois plus taxes, mais ignorons les taxes dans cet exemple. Je gagne pas mal plus que 127 $ par mois, même en étant aux études, se dit-il. C'est une dépense que je peux me permettre. Yves décide de se lancer. Tous les deux ans, il change de téléphone pour en avoir un nouveau. Combien tout ça lui coûte-t-il? Sans doute 1000 et quelques dollars par année, se dit Yves. En fait, il ne le sait pas vraiment. C'est juste un téléphone. Imaginons maintenant une jeune adulte de 20 ans, un peu plus curieuse, disons Nina. Nina a compris que ses entrées d'argent sont précieuses. En fouillant un peu, elle réalise qu'elle peut acheter un iPhone 13 remis à neuf sur eBay ou Marketplace pour 400 $. Elle trouve aussi un forfait chez Public Mobile à 23 $ par mois pour 6 gigaoctets avec texto et appels illimités. En changeant de téléphone tous les 4 ans, Nina réalise que ça lui coûte un total de 376 $ par année ou 31 $ par mois. Donc, 127 $ par mois pour Yves et 31 $ par mois pour Nina. Arrondissons la différence entre Yves et Nina à 100 $ par mois. On parle ici de deux adultes qui pourraient être des collègues, des amis. Leur niveau de bonheur va varier, mais leur téléphone ne contribuera ni de façon très positive, ni de façon très négative à leur satisfaction de la vie. Les études sur le sujet sont claires. Nos possessions ne nous procure pas de bonheur de façon durable parce qu'on s'y habitue et qu'elle cesse de nous fasciner. Les chercheurs ont un terme pour cela. L'adaptation hédonique. Bref, la différence, c'est que Nina aura dans ses poches 100 $ par mois qu'Yves n'aura plus. Nina sait que la meilleure façon d'investir est de mettre ça sur le pilote automatique. Elle programme donc un virement tous les premiers du mois de son compte bancaire vers son compte CELI dans une plateforme d'investissement comme Wealthsimple, par exemple. Sur 100 $ sont automatiquement investis dans un fonds croissance à frais de gestion modique comme les fonds ZGRO de BMO, XGRO de BlackRock ou VGRO de Vanguard. 100 $ par mois investis de l'âge de 20 ans à 65 ans, donne plus de 200 000 $ en placement si l'on émet l'hypothèse d'un rendement annuel de 5 %, aucunement assuré, mais les marchés boursiers ont connu une croissance annualisée de plus de 7 % depuis plusieurs générations. Et ça tient compte de l'inflation, car les prix vont augmenter, mais l'écart d'épargne entre Yves et Nina pour le téléphone va augmenter aussi. Mais ce n'est qu'un début. Comme la majorité des gens vont vivre à deux et combiner leurs finances, on peut doubler les montants de cet exemple. Donc, un couple pourrait avoir plus de 400 000 $ en placement non imposable dans leur CELI à l'aube de la retraite. Tout ça pour avoir trouvé un meilleur prix pour son téléphone et avoir appris les bases simples de l'investissement. L'idée n'est pas de culpabiliser quiconque, mais de comprendre. Comprendre où va notre argent. Comprendre comment l'argent fait de l'argent. Comprendre qu'on ne s'enrichit pas en louant ses heures. Même à fort prix. Même quand on est avocat ou médecin, on s'enrichit en investissant. Comme l'a un jour dit l'acteur Frédéric Mathias Alexander, les gens ne décident pas de leur avenir, ils décident de leurs habitudes et leurs habitudes décident de leur avenir. Nous naissons tous analphabètes financiers. Notre tâche est d'éliminer cette condition. Nos parents, nos amis, nos professeurs d'université, notre employeur ou le gentil employé de la boutique Apple ne l'élimineront pas à notre place. Mon exemple porte sur un simple téléphone. Je ne parle pas des centaines d'autres décisions et d'habitudes comme le choix d'un véhicule, de la taille de la maison, d'habiter près ou loin du travail, de privilégier le vélo, l'auto solo ou les transports en commun, d'aller au restaurant trois fois par mois ou trois fois par semaine, de passer son samedi au centre commercial, au parc ou à la bibliothèque. Et donc, je vous pose la question, si on a trouvé 200 000 $ dans le téléphone, on trouverait combien dans tout ça? C'était « Pourquoi l'iPhone 16 Pro Max coûte en réalité 200 000 $ », un texte de Nicolas Bérubé, paru le 6 octobre 2024 dans La Presse.
Reboisé grâce aux feuilles d'automne. Un texte de Sarah Champagne, paru le 30 septembre 2024 dans La Presse. Saint-Roch de Lachigan. En ratelant leur terrain cet automne, des résidents des Laurentides contribueront, sans même s'en douter, à reboiser des carrières de sable abandonnées du Québec. Leurs feuilles mortes récupérées durant les collectes municipales serviront à stimuler des plantations de saules. Ces arbres vont créer de nouveaux puits de carbone, de nouveaux écosystèmes. Cette année, 100 % des feuilles récupérées dans la municipalité de Prévost, au nord de Mirabel, sont destinées à engraisser des sablières en plein reboisement. C'est l'équivalent de 120 tonnes de feuilles, précise la conseillère en communication de Prévost, Audrey-Anne Lamarre. Une fois tombées des arbres, ces feuilles sont encore riches en nutriments. Les feuilles mortes provenant des collectes d'automne d'autres villes du Québec seront aussi acheminées vers de futures forêts de saules. On parle des feuilles de Saint-Jérôme, situées aux portes des Laurentides. La situation est toutefois plus compliquée pour les feuilles ramassées au printemps, ce qu'on appelle des résidus verts à cause des polluants et détritus liés à la fonte des neiges. Elles finiront dans des sites de compostage. Après les murs anti-bruit. L'entreprise derrière ces saulets, créée de toutes pièces, s'appelle RAMO. R-A-M-O. Elle est déjà reconnue pour ses murs anti-bruit en bois, à l'acoustique en laine de roche. Ces écrans sont vendus jusqu'en Californie. on les verra bientôt apparaître à Boucherville, sur la rive sud de Montréal. Le siège social de Rameau est situé à Saint-Roch-de-Lachigan, à une quarantaine de kilomètres au nord de Montréal. Fondée au début des années 2000, l'entreprise produit aussi des copeaux. Francis Allard est cofondateur et président de Rameau, qui a pris naissance sur l'ancienne ferme de son père. Les terres du secteur de Lanaudière sont reconnues pour leur culture de carottes. Mais aujourd'hui, en lieu et place des légumes racines, d'impressionnantes rangées de pousses de saule de plusieurs mètres s'y dressent à perte de vue. Pour se frayer un chemin dans cette forêt, rappelant les champs de hautes herbes sur le bord des routes, il faut d'abord franchir un petit ponceau, puis un mur cordé très serré, de tiges recouvertes de feuilles. Croissance rapide. Les saules à croissance rapide, qui atteignent déjà plusieurs mètres de haut, ont été plantées cet été, explique M. Allard. C'est pour cette raison qu'on parle de croissance rapide. Les récoltes pour les transformer en murs ou encore en copeaux ont lieu fréquemment chaque année. Il est difficile de faire pousser quelque chose sur les sablières désaffectées. C'est presque du sable de plage, souligne Francis Allard. Mais avec un bon terreau, les saules ont une capacité incroyable de pousser. Ils séquestrent du carbone dès leur plantation, contrairement à des résineux qui peuvent prendre de 15 à 20 ans. On arrive donc à recréer un écosystème à part entière. Le dirigeant de Rameau a invité la presse à se rendre une dizaine de kilomètres plus loin, chemin du Curé Barrette à Terrebonne. À cet endroit, une partie de l'énorme carrière de sable Villeneuve est arrivée en fin de vie. En vertu des règles du gouvernement du Québec, les propriétaires doivent déployer un plan de réaménagement ou de restauration. Ici, des travailleurs ont déjà dégagé le terrain de ces roches. De l'épandage de terre noire a aussi eu lieu. De jeunes pousses de saule viennent d'éclore. Bientôt, le sol sera recouvert de feuilles d'arbres râtelées par des particuliers, explique M. Allard. Pour chaque hectare de forêt de saule à croissance rapide, 10 tonnes de dioxyde de carbone CO2 sont capturées chaque année. Il y a des centaines de sablières abandonnées au Québec. On parle donc d'un millier d'hectares à transformer en puits de carbone. 24 millions, nombre de saules qui ont été plantés au Canada et aux États-Unis par Rameau. L'entreprise Rameau a également des projets de plantation dans l'ouest du pays, sur des mines de l'Alberta. D'autres cultures sont prévues dans l'État de New York et dans le nord du Québec. En Abitibi-Témiscamingue, l'entreprise spécialisée dans l'utilisation des saules pour résoudre des problèmes environnementaux, phytotechnologie, a planté des millions d'arbres, dont 20 000 sur le site de la mine de lithium Sayona, qui sert à alimenter les batteries des appareils mobiles et véhicules électriques. Les bienfaits. Les saules sont reconnus pour leurs bienfaits, entre autres pour reboiser des berges et des bandes riveraines dévastées par des inondations. Grâce à leur grande capacité d'absorption, les forêts de saule permettent de traiter une partie des eaux usées en agissant un peu comme un papier absorbant, un évaporateur biologique. La phytotechnologie est également prometteuse sur les sites d'enfouissement, les anciens dépotoirs. À la Ville de Montréal, des cols bleus s'assurent de la gestion des feuilles mortes sur le domaine public, les trottoirs, les bouches d'égouts et les routes. Pour l'instant, elles sont utilisées pour produire du compost, notamment destiné au parc. La collecte annuelle varie entre 15 000 et 18 000 tonnes chaque année, en comptant la collecte des sacs de feuilles, précise Camille Bégin, responsable des relations avec les médias à la Ville de Montréal. C'était « Reboiser grâce aux feuilles d'automne », un texte de Sarah Champagne, paru le 30 septembre 2024 dans La Presse.
Explorer les préjugés envers les hommes gays asiatiques. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 29 octobre 2024 dans le magazine Fugue. À mi-chemin entre l'essai et le récit personnel, « La peau hors du placard », édition Seuil, est un ouvrage éclairant, percutant, nécessaire et franchement bien écrit sur la réalité des hommes gays asiatiques et les préjugés qui leur collent à la peau. Fugue en a discuté avec son auteur Jean-Baptiste Fou. À 10 ans, ta mère a dit que tu allais marier une femme chinoise quand tu serais adulte. Presque au même moment, tu as compris que tu étais attiré par les garçons. Comment as-tu vécu cette situation? Comme une imposition sur ce que devait être ma vie, d'un point de vue familial et amoureux. Ça allait en contradiction avec ce que je ressentais à l'intérieur. En plus, à cette époque-là, je n'avais pas de mots pour décrire ce que je commençais à ressentir. Je n'avais aucune représentation dans les médias ou à l'extérieur de chez moi. Rien ne me montrait qu'il y avait une autre voie que celle que mes parents voulaient m'imposer. Je pensais que j'étais anormal et que ma vie serait forcément un drame. Tu rêvais d'un coming out comme tu en voyais à la télévision américaine dans les familles blanches, mais ça ne s'est pas passé ainsi. Après ta sortie du placard, ton père ne t'a plus parlé pendant des mois et ta mère a proposé d'aller voir un docteur. Quelle trace tout cela a-t-il laissé? Puisque je ne pouvais pas les satisfaire, j'ai décidé d'habiter cette déception et de me permettre de chercher qui je suis vraiment, sans tenter de correspondre à leurs attentes. Ça ne m'a pas écrasé à ce moment-là. C'était presque une porte de sortie. Certains diront que ça m'a fortifié, mais je n'en sais rien. Je crois plutôt que ça m'a fragilisé, car ça m'a poussé dans des situations précaires. J'ai fugué à 17 ans et je me suis retrouvé avec des hommes qui ont abusé de moi, en profitant de cette situation. Quand tu as commencé à sortir à Paris, tu étais constamment réduit à ton état d'homme asiatique. Quels sont les clichés auxquels tu faisais face dans le milieu queer? Dans le livre, j'évoque ce que j'ai vécu dans le Marais dans les années 1990-2000. Mais encore aujourd'hui, on est conditionné par cet imaginaire. Selon plusieurs personnes du milieu queer, l'homme asiatique serait uniquement passif, peu membré et imberbe. Apparemment, on aurait tous les mêmes caractéristiques physiques. Et culturellement, on serait des personnes soumises, discrètes et effacées, ce qui se transposerait au lit. Ils imaginent des petites choses frêles avec qui on fait ce qu'on veut. Que réponds-tu à ceux qui se contentent de dire qu'ils ont des préférences qui n'incluent pas les Asiatiques? C'est vrai qu'on a envie de se dire qu'on peut être libre d'aimer ou d'être attiré par qui on veut. On n'a pas envie que quelqu'un fasse la police en disant que ce qu'ils expriment est raciste. Je crois qu'on a tous des goûts. Ce serait hypocrite de dire qu'on aime tout le monde de la même façon. Mais ce que j'essaie d'approfondir dans le livre, c'est que certaines de ces préférences sont des constructions sociales. On a hiérarchisé des groupes et imposé des stéréotypes. Les Noirs aux grosses bites, les Arabes dominants, les Asiatiques passifs soumis. On les a essentialisés. C'est pour ça qu'on ne parle plus tellement de préférences, mais de conditionnement raciste. Malheureusement, beaucoup de personnes ne poussent pas la réflexion jusqu'au bout. pourquoi les hommes asiatiques ont-ils été catégorisés comme peu désirables? Ça vient en partie de l'époque coloniale. Les Européens de l'époque ont notamment justifié leur conquête par des théories prétendant qu'ils avaient droit de conquérir ces peuples, car ils étaient moins évolués qu'eux. Il y avait donc une déshumanisation des populations. Ils se donnaient le droit de les exploiter, de les violer, de prendre leurs terres et d'accaparer leurs richesses. Sur le plan sexuel, c'était une façon de les décrédibiliser auprès de leurs femmes autochtones, qu'ils voulaient aussi accaparer, et des Blanches qui allaient ensuite coloniser ces pays-là. L'image accolée aux hommes asiatiques, il y a plusieurs siècles, était désexualisée. Ils étaient juste des petites mains capables de produire des choses. On leur enlevait leurs attributs virils. Dans la communauté gay, encore aujourd'hui, on vénère l'homme alpha, le mâle musclé qui a le torse velu et une grosse bite. Puisque l'homme asiatique ne correspond pas à ça dans l'imaginaire, il se retrouve au bas de l'échelle. À l'inverse, il y a aussi ceux qui ne prêchent que par les gays asiatiques. Certaines personnes sont attirées par l'imaginaire des petites choses imberbes, soumises, avec qui on peut tout faire. C'est ce que j'appelle les asiaphiles ou les rice queens. Ils sont fascinés par l'imaginaire du corps glabre, imberbe et un peu androgyne. Très jeune, je ressentais un malaise face aux personnes qui nous rejetaient de façon essentialisante et celles qui nous convoitaient aussi de façon essentialisante. Donc, à 15-16 ans, j'ai décidé de ne pas rentrer dans cette dynamique. Je ne cherchais pas à sortir ou à coucher avec des Blancs parce que j'entrevoyais que ce groupe m'enfermait dans un autre groupe et que, dans la hiérarchie mise en place, seuls les Blancs avaient le droit d'avoir des préférences et une personnalité. Ils pouvaient se définir comme ils voulaient, alors que nous étions réduits à une case. Je suis donc allé chercher ailleurs. Mais avec le temps, j'ai compris que je reproduisais la même intolérance que je subissais et que ce n'était pas une solution de se catégoriser et de se rejeter les uns les autres. Info « La peau hors du placard » de Jean-Baptiste Fou, éditeur Seuil, 2024. C'était « Explorer les préjugés envers les hommes gays asiatiques », une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 29 octobre 2024 dans le magazine Fugue.
La pandémie a profité aux plus riches. Un texte de Vincent Brousseau-Pouliot, paru le 16 octobre 2024 dans la presse. On a une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer à propos des finances des Canadiens. Commençons par la bonne. La majorité des ménages du pays, 60% pour être plus précis, ont vu leur pouvoir d'achat augmenter depuis le début de la pandémie. Ce sont les ménages les plus aisés qui se sont enrichis. Leurs revenus ont augmenté plus vite que le coût de la vie, selon une étude du directeur parlementaire du budget, DPB, fédéral, publié la semaine dernière. La mauvaise, les autres ménages, les 40%, les moins nantis, ont vu leur pouvoir d'achat diminuer depuis la fin de l'année 2019, selon la même étude. La conséquence de tout ça, c'est que les inégalités économiques ont augmenté au Canada depuis la pandémie, ce qui n'est jamais bon dans une société sur le plan social comme économique. Dans son étude, le DPB a divisé les ménages canadiens en 5 groupes, en fonction de leurs revenus. Il a ensuite calculé la hausse du revenu disponible, après impôts et transferts, et la hausse du coût de la vie, pour chaque groupe entre le dernier trimestre de 2019 et le premier trimestre de 2024. En moyenne, un ménage du groupe des 20% les moins aisés a 2 192 $ de moins par année dans ses poches. Cela représente une détérioration de 6,9% de son pouvoir d'achat par rapport à son revenu disponible. C'est une baisse très importante en seulement 4 ans. le groupe des revenus modestes, le deuxième quintile, a vu son pouvoir d'achat diminuer de 2 676 $ par an, soit 4,5% de son revenu disponible. Ce qui gruge essentiellement les finances des ménages moins aisés, c'est le logement. Avec la pénurie et la hausse des taux d'intérêt, se loger coûte plus cher et ce n'est pas compensé par une hausse équivalente du revenu disponible. Selon l'économiste François Delorme, professeur associé à l'Université de Sherbrooke, ça n'a pas de sens que les ménages moins nantis s'appauvrissent ainsi. Ces ménages sont plus vulnérables à des hausses de loyers ou de taux d'intérêt et n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre, dit-il. Même s'ils ont un soutien gouvernemental du côté des revenus, on voit bien qu'ils ne sont pas assez protégés au niveau des dépenses en logement. Pendant ce temps, les deux groupes des revenus moyens et des revenus élevés ont amélioré leur pouvoir d'achat, respectivement de 3,6% et de 4,1%. Et le cinquième de la population qui compte sur les revenus les plus importants est vraiment plus riche qu'avant la pandémie. Son pouvoir d'achat a augmenté de 11,7%. Tant mieux pour ce groupe, qui gagne en moyenne 302 828 $ avant impôt par ménage. Mais ça démontre que les inégalités économiques augmentent. Si on met tous les Canadiens dans le même panier, le pouvoir d'achat des ménages a augmenté en moyenne de 2,74% entre 2019 et 2024. Cette hausse est due essentiellement à la situation des gens plus aisés, comme on vient de le constater. En moyenne, le Québec, plus 3,9%, vient au deuxième rang des provinces où le pouvoir d'achat a le plus augmenté depuis la pandémie, après la Colombie-Britannique, plus 5,8%, mais devant l'Ontario, plus 3,3%. En revanche, si on tient compte uniquement des années 2022 et 2023, le pouvoir d'achat de tous les ménages canadiens a diminué, particulièrement celui des ménages les moins nantis et de la classe moyenne. L'inflation annuelle était de 3,4% en 2021, de 6,8% en 2022 et de 3,9% en 2023. C'était « La pandémie a profité aux plus riches », un texte de Vincent Brousseau-Pouliot, paru le 16 octobre 2024 dans la presse.